Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, et bien on va ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Marc, si vous voulez bien. Nous allons faire une lecture. Et nous allons prendre en considération, eh bien, un sujet qui est tellement fréquent dans notre monde, d'une façon ou d'une autre, hein, que ce soit dans le monde de la foi, le monde de la religion, ou également dans le contexte populaire, hein, à travers toutes les cultures, à travers toutes les civilisations, la tradition. Et Jésus a traité à plusieurs reprises cette question de tradition, et j'aimerais que nous la traitions ce soir sous l'angle de tradition et liberté. Voilà, ça peut être un excellent sujet, parce que Jésus nous enseigne certaines choses au regard d'un peuple qu'il connaissait bien, c'était son peuple, c'était la nation d'Israël, ô combien traditionnelle cette nation des Hébreux, cette nation juive. Et Jésus nous en parle d'une manière explicite dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Et nous allons lire quelques versets, si vous voulez bien. Alors, nous ouvrons donc l'évangile de Marc, chapitre 7, et nous allons commencer à lire à partir du verset 1er. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit : « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit : « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore : « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Alors les protagonistes de notre lecture, de notre texte, c'est cette catégorie religieuse que l'on appelle les pharisiens. Il y a Jésus, il y a ses disciples, et puis il y a un grand débat autour de la tradition des anciens, la tradition des hommes, ce sont les termes que Jésus emploie, et le commandement de Dieu. En d'autres termes, la volonté de Dieu. Et Jésus va répondre par ce texte, et puis bien d'autres. Nous allons prendre cela en considération parce que je pense que c'est important. Il y avait ce phénomène qui causait une division de la division. En tous les cas, des opinions très controversées avec quelquefois des palabres et des disputes souvent vigoureuses. Mais ça, c'était l'ancien temps. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que même dans notre siècle, dans notre monde, la question reste toujours la même. Je vous l'ai dit, je le répète, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan populaire, sur le plan religieux, que dire peut-être en politique, où chacun est campé dans sa position. Et alors, ce qui fait partie du monde et des hommes, c'est une chose. Mais quand il s'agit de la foi en Jésus-Christ, quand il s'agit de trancher entre les commandements des hommes et puis la volonté de Dieu clairement exprimée dans sa parole, alors à ce moment-là, nous allons nous mettre à l'écoute de Jésus parce que c'est quand même important. Et si j'ai titré cette méditation ce soir « Tradition ou liberté », c'est que quelquefois la tradition, elle ne libère pas, elle enferme les âmes. Dans, je veux bien le reconnaître, une véritable sincérité d'être dans la vérité. Et on sait très bien que parfois, à regarder certaines traditions, ici ou ailleurs dans le monde chrétien, ou peut-être davantage encore dans d'autres mondes où le fait religieux est bien marqué, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours. Finalement, eh bien là, selon la pensée de Dieu, très éloigné de la pensée de Dieu et qui rend les gens profondément malheureux parce que ça leur pose un dramatique problème de conscience. Je fais ou je ne fais pas. Si je ne fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà. Le qu'en dira-t-on? Le jugement des hommes, des autres qui font les choses. Et si vous vous démarquez, eh bien vous êtes en quelque sorte, eh bien là, un traître à la tradition. Et quelquefois, ça va très loin. Vous avez remarqué avec moi, je commence de cette manière. Il nous est parlé donc des pharisiens. On va dire quelques mots parce que c'est bien de pouvoir situer ces gens qui vivaient à l'époque de Jésus, hautement religieux, certainement très sérieux dans ce qu'ils croyaient, et qui, quelque part, ont été quand même à l'origine, ou en tous les cas, ils ont pris parti pour la crucifixion de Jésus. Alors c'est quand même difficile à concevoir, tu ne tueras point, naturellement. Les pharisiens s'assemblèrent, il nous est dit, pour voir. Ils s'assemblèrent et ils virent quelques-uns des disciples de Jésus. Ils sont venus pour ça, puisqu'il nous est dit qu'ils étaient venus jusqu'à Jésus de Jérusalem. Alors ils ont fait les choses tout à fait sereinement, ils se sont assis, ils se sont rassemblés, et là, eh bien, ils ont pu voir, ils venaient pour voir quelque chose, les mains impures des disciples, imaginez-vous. Voilà, c'est ce que nous pouvons constater. Ils venaient regarder, ils venaient critiquer, et ils venaient juger, parce qu'il y avait quelque chose qui les tourmentait dans leur conscience, par le fait, nous l'avons vu, que les disciples de Jésus, eh bien, mangeaient sans s'être lavé les mains. On dit, et on a appris à nos enfants d'aller se laver les mains avant de manger, hein. Et je crois qu'on a bien retenu la leçon, parce que bon, ça fait partie de l'hygiène, mais c'est pas une affaire d'hygiène dont je vais vous parler d'ici quelques instants. C'eût été pour eux-mêmes, ces pharisiens, pour individuellement, mais ils sont venus en groupe, comprenez? Parce que de venir s'assembler, ça leur donnait peut-être le sentiment de plus de force par rapport à leurs préjugés. À leurs préjugés et donner raison à leur opiniâtreté, finalement, eh bien, de dire quelque part, eh bien, nous avons raison d'être et de faire et de dire ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous pensons. Alors, il faut dire que, j'ajoute, ils étaient en opposition à la volonté de Dieu. Non pas parce qu'ils se lavaient les mains avant les repas, mais parce qu'ils critiquaient, ils jugeaient, et ils étaient venus pour interpeller Jésus et le mettre dans l'embarras avec les réponses qu'il serait censé de leur donner. Ils ont cherché un défaut. Pas trop difficile quand on va regarder, on regarde quelqu'un, on va bien trouver, on va toujours lui trouver un défaut. Et ils ont vu que les disciples étaient en flagrant délit de malpropreté, si je peux m'exprimer ainsi. Vous vous rendez compte? Ils ont les mains sales. Et à l'époque, on mangeait avec ses doigts. La fourchette et la cuillère n'avaient pas été inventées, vous comprenez? On l'a peut-être fait pour ça d'ailleurs, hein. Parce que jusqu'au Moyen-Âge et même la Renaissance, eh bien les gens mangeaient avec leurs doigts, hein. La fourchette d'Adam, vous connaissez? Marquez, le Seigneur a prévu, hein, parce que ça peut servir. Naturellement, ça sert bien. Et c'était pas la question qui les troublait de qu'ils mangent avec des mains sales, mais moi je pense que c'était en quelque sorte parce que les disciples de Jésus, Jésus le maître, Jésus le rabbi, celui qui normalement, en effet, était censé de connaître les bonnes manières et de les enseigner à ses disciples, eh bien c'est que, quelque part, ce qui les choquait, ce qui les mettait dans un état de, ben, comme nous l'avons vu, c'était précisément parce que les disciples de Jésus, et Jésus peut-être lui-même, mais étaient dans la désobéissance de la tradition. La tradition voulait que, voilà, on se lave les mains. Je le répète, ce n'était pas une question de propreté ou d'hygiène, mais c'était comme ça. Et on est quand même étonné parce que, on va dire quelques mots des pharisiens maintenant, particulièrement en ce qui concerne cette castre, ou tout simplement, eh bien, ce puissant lobby, on dirait aujourd'hui, que l'on appelait, eh bien, le pharisianisme. Et pharisien, ça donnait le mot les séparer. C'est-à-dire que, voilà, il y avait le monde, il y avait la société, il y avait tous les autres, et puis il y avait ces gens qui étaient séparés. Parce que c'est comme ça qu'on les appelait. Et à l'origine, bibliquement parlant, en araméen, eh bien, ils s'appelaient les assinines. C'est-à-dire, ça veut dire les pieux. Alors, on reconnaissait naturellement la tendance qui était la leur, ou chassidim, une autre version. C'est un groupe de religieux qui est apparu au moment du retour de la déportation de Babylone. Et nous voyons qu'ils sont apparus à peu près, je ne sais pas exactement, mais entre 200 et 300 avant Jésus-Christ. Et ils représentaient à ce moment-là, au départ et après, un mouvement religieux qui s'est élevé contre, écoutez-moi le mot parce que c'est quand même l'histoire, l'hellénisation, c'est-à-dire que à ce moment-là, c'était la Grèce qui dominait le monde à cette époque. Ils sont venus plus tard les Romains, hein, avec de fameux rois tels que Antiochus Épiphane, qui a voulu véritablement et bien détruire le temple de Jérusalem, qui a scandalisé finalement d'une manière terrible les Juifs jusqu'à sacrifier un porc sur l'autel de Jérusalem. Je peux vous dire que ça leur... Alors il y a eu un mouvement qui a réagi. Donc c'était des juifs pieux, on les appelait donc les hassidim, et nous nous apercevons que ça les a renforcés quelque part contre le monde d'alors, le monde politique, le monde l'envahisseur, hein, et ils étaient farouchement, ça fait contraire, ils étaient farouchement attachés à la loi de Moïse, ce qui n'y avait rien à dire naturellement. C'était la bonne période des pharisiens à ce moment-là, et puis le temps a passé, les siècles ont passé. Et nous voyons que, dans le départ, les pharisiens avaient un rayonnement spirituel considérable. Et petit à petit, comme ce qui attend finalement, malheureusement, et ce qui a atteint beaucoup de mouvements religieux à travers les siècles et les temps, alors la foi a décliné pour s'ériger en système rigoriste, voire sectaire et même persécuteur. Ça, c'est l'histoire que je suis en train de vous rappeler. Mais pour montrer, parce qu'on parle souvent des pharisiens dans nos réunions, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Alors on reconnaît que ce sont des gens, voilà, qui étaient très religieux, et puis ça s'arrête là. Souvent, on sait que, bon, ils étaient là à présider la crucifixion de Jésus, ça s'arrête là. Alors vous connaissez un peu l'histoire maintenant de ce que c'est. Au départ, il y avait quelque chose d'authentique, et puis après, il y a eu, comme nous pourrions dire, une érosion de leur foi, et peut-être perdant du terrain. Alors, ils se sont véritablement mis dans un profil qui est devenu ce que nous connaissons, eh bien là, au moment de l'Évangile. Et c'est dans cet état que Jésus les a rencontrés dans son temps. Ça faisait 200-300 ans qu'ils étaient là, les pharisiens. C'était des références, ils avaient une réputation. C'était des gens qui tenaient le haut du pavé, ils avaient pignon sur rue, comme l'on dit. Et ils occupaient toutes les postes stratégiques de la nation. Que ce soit en justice, alors en religion naturellement, ils avaient la prééminence, mais même dans bien d'autres domaines, sur le plan social, etc., etc. Dans la mesure où on allait au temple et dans la mesure où on allait dans la synagogue, autrement, ça passait pas. Hein. C'est pour ça que l'Évangile nous parle de pharisiens et il nous parle de publicains, c'est-à-dire on les appelait les publicains parce que c'était des gens populaires et voilà, c'est tout simplement des gens sans Dieu en quelque sorte. Alors, il y avait les deux. Et vous savez comment Jésus a traité le problème de l'un et de l'autre, hein, de ces deux sortes d'individus. De la loi saine et fervente qui était la leur, ils sont passés à la loi quasi fanatique et aveugle. Et Jésus, si vous le lisez à la fois dans Luc, mais particulièrement dans Matthieu, chapitre 23, dressera un réquisitoire implacable contre l'état d'esprit des pharisiens. Alors je voudrais vous dire que, à quelque niveau que ce soit, religieux ou non, on s'aperçoit que si les pharisiens sont morts depuis longtemps, en tous les cas l'état d'esprit reste le même encore aujourd'hui. Parce que c'est une constante de l'humanité. L'homme aime bien se sauver par lui-même. Il aime bien s'enorgueillir du bien qu'il fait. De prétendre que, il est le sauveur, finalement, du monde et de tout le reste. Et si nous regardons le profil d'un pharisien, je me suis livré à cette petite étude, avec attention. Si nous regardons le profil d'un pharisien, ce qu'il est, ce que Jésus va justement, là mettre en évidence devant nous, nous allons voir que, et ceux du temps de Jésus, pas tous, parce qu'il y avait des Nicodèmes, il y avait Joseph d'Arimathée, il y en avait d'autres. Moi, je pense qu'un homme Gamaliel, par exemple, c'était des gens qui étaient pharisiens, certes, mais avec un petit peu plus de niveau, qui prenaient de la hauteur et une interprétation de la loi de Dieu qui était quelque part favorable à ce qu'ils entendent l'Évangile et qu'ils croient à l'Évangile. D'ailleurs, certains certainement sont parvenus à accepter Jésus comme leur Sauveur, comme le Messie en tous les cas. Et de pharisiens, il y a un mot qui s'accroche, qui finalement leur est tout à fait convenable à ceux qui ont crucifié Jésus. C'est le mot d'intégrisme. Et là, ça nous ramène finalement à ce que nous vivons encore aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'intégrisme, c'est vraiment à l'ordre du jour. C'est un fait religieux qui, fait trembler le monde, qui fait trembler les nations. Parce que quand on voit la manière dont l'esprit des intégristes, il y a peut-être de quoi s'effrayer, puisqu'ils se donnent les moyens de parvenir à leur fin. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est une fuite en avant, et on le voit dans bien des religions. Alors si véritablement la religion a un support doctrinal qui favorise, alors là, à ce moment-là, mais c'est pas la peine d'aller chercher chez les autres et de pointer le doigt chez d'autres, lorsque nous voyons que même dans notre pays, pendant des siècles et des siècles, les chrétiens, le christianisme évangélique a été persécuté au moins pendant 3 siècles par l'intégrisme de l'Église dominante. Et ça a été terrible parce que c'était le sang, c'était le feu, c'était une dévastation. Et toute, nous pourrions dire, la vieille Europe est passée par là. Alors, on peut parler d'intégrisme naturellement. Et le problème des pharisiens, c'est que ils confondaient entre la lettre et l'esprit. Paul, ancien pharisien farouche, zélé, persécuteur, voire même meurtrier, a fait une expérience. Parce qu'il était le tenant d'une lettre inflexible, d'une rigueur dont on a du mal à s'imaginer, dès sa jeunesse. Et à un moment donné, il va véritablement faire l'expérience que ce n'est pas la lettre qui vient en premier, c'est l'esprit. Et quand on a l'esprit, la lettre, à ce moment-là, elle n'est pas abolie, elle ne disparaît pas, mais elle trouve une nouvelle dimension, elle est spiritualisée. C'est ce que Jésus est venu dire à travers le sermon sur la montagne, et c'est le corps même du Nouveau Testament. Devoir, obligation, esclavage, asservissement a été changé par liberté, par pardon, par grâce, par amour. Et ça change tout. On est passé du devoir malheureux au devoir heureux. Alors, j'aimerais faire un petit peu le tableau, parce que ça peut être intéressant. Je parle pour vous, mais je voudrais parler peut-être à tous ceux qui ne sont pas là. Parce qu'il y a des gens, et j'en suis tout à fait conscient, moi-même étant passé par là, sortant d'un certain milieu où les débats de la conscience ont été si vifs à rendre malade, vous comprenez? Les hommes ou le Seigneur? La tradition des hommes ou le commandement de Dieu ou la vérité de Dieu? Et je peux vous dire que ça peut rendre malheureux, et encore aujourd'hui je suis tout à fait convaincu qu'il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, des vieillards, peut-être après une existence, après de longs jours, sont encore dans ce débat de conscience. Qu'est-ce que je fais? Et je voudrais que ce message, autant qu'il a été certainement pour les contemporains de Jésus une libération, qu'il soit aussi dans notre temps, vous rendez compte, au XXIe siècle, une libération. Alors, on va parler de pharisiens, on va parler de fanatiques aussi. et de fanatisme, parce que le fanatisme choque par ses actes, ses actions, si vous aimez mieux, par ses discours radicaux. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de porte de sortie, c'est ainsi. Et sa logique qui s'appuie sur le dogme et la doctrine. Voilà. Et toutes les religions en arrière-plan ont une doctrine, une base. Et on s'aperçoit que il y en a qui sont clairement, en effet, déclarés comme inhumaines. Ouais. Ou surhumaines, si vous aimez mieux, puisque le but à atteindre est inaccessible. Ça, c'est un premier point. Le fanatisme est convaincu de détenir à lui tout seul la vérité. Voilà. Autre part, autrement que sa vérité à lui, il n'y en a pas d'autre. Tout est hérésie, tout est erreur, et de là même, eh bien, à éliminer. Le fanatisme se sert selon son interprétation, enfin le fanatique, si vous aimez mieux dans cette phrase, du verbe, c'est-à-dire de la parole. C'est ce qui lui sert d'appui. Il a bien sûr, non pas des idées naturellement, et puis des cérémonies et tout ce que vous voudrez, des traditions, du ritualisme, enfin toutes sortes de choses, mais il s'appuie sur le verbe. Et on peut l'appeler, on peut le décliner, la parole, si vous aimez mieux. Mais cela dans un but bien particulier, et Jésus le dira, pour l'imposer au besoin par la violence. Écoutez, quand on entend ce qui s'est passé au Mali ces derniers temps, ou en Afghanistan, ou beaucoup plus dans le temps dans notre pays, où en effet, confiscation de la vie des gens, parce qu'il y avait de la résistance et de l'opposition, parce que bon... Les hommes qui étaient éclairés par l'Évangile, par Jésus-Christ, voulaient avoir la liberté de penser, vous comprenez? Mais comme il n'y avait pas le choix, eh bien voilà, par la violence, et exiger à ce moment-là, sur la parole même, qu'ils détiennent, qu'ils interprètent, qu'ils dénaturent, qu'ils déforment, l'obéissance sans discussion, ni même une réflexion. C'est ainsi, on pense pour vous. On pense pour vous, vous n'avez qu'à croire que ce que l'on vous dit, eh bien c'est la vérité. C'est terrible, hein? C'est à suffoquer, hein. Et beaucoup se sont retrouvés en prison dans des conditions terribles. D'ailleurs, c'est à ce titre, vous vous en souviendrez, que Jésus dira dans ce réquisitoire de Matthieu chapitre 23, il dira « Mais faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils font. » Il y a un petit peu d'ironie dans tout cela. Voilà. Hein, c'est Jésus qui l'a dit. Ils sont assis dans la chair de Moïse, hein, ça visait particulièrement, eh bien, les pharisiens et ses autorités religieuses. Ils sont assis dans la chair de Moïse, ils vous mettent des fardeaux sur les épaules, hein, ils vous écrasent, mais ne croyez pas qu'ils vont faire, ils vont lever le petit doigt pour vous aider, hein. Vous retrouverez ces textes naturellement. Le fanatique se substitue à Dieu, parce qu'il est tellement convaincu qu'il est tout à fait dans la volonté de Dieu et parlant toujours ou agissant au nom de Dieu. Il a certainement, eh bien là, sa religion qui est la sienne, mais quand il en parlera, c'est Dieu. Donc sa religion, c'est Dieu. Dieu est au cœur de sa religion et lui-même va s'interpréter, il va s'intégrer dans le personnage de Dieu. Et il va naturellement chercher à transposer ses exigences sur ceux qu'il côtoie, son environnement, dans son quartier, dans son pays, etc., etc., au moyen de la peur. C'est une analyse sociologique, hein, de notre temps, hein, au moyen de la peur. Parce que quand on ne peut pas faire marcher les hommes par l'amour, on les fait marcher par la crainte, par l'effroi, par le châtiment. Le châtiment, non pas des hommes, mais le châtiment divin. Dieu te jugera. Dieu va te condamner. Dieu fera ceci, Dieu fera cela. Ce sont des arguments que l'on connaît. Ou la menace. Si tu ne le fais pas, bien voilà ce qui va arriver. Parce que ce personnage, pharisien s'il en est très persuasif. D'autant plus qu'il a le pouvoir. Ou il a gagné le pouvoir. parce qu'il a su s'imbriquer dans toutes les mailles et dans le tissu de la société dans laquelle, eh bien là, il peut s'ébattre et il évolue. Notre pays a connu une révolution, vous en connaissez, vous en rappelez la date, parce que finalement, il y avait cette imbrication entre le pouvoir royal politique et puis le pouvoir religieux. Vous alliez à droite, vous alliez à gauche, c'était le mur, il n'y avait rien à faire. La révolution a dit, maintenant c'est fini tout ça, terminé. Et aujourd'hui, il y a des peuples dont nous entendons parler, naturellement au quotidien, qui ont espéré grandement la libération et la démocratie, puis s'aperçoivent que finalement, eh bien, les choses se tournent dans un autre sens. Bon, c'est comme ça. Alors, en restant toujours sur ce profil de personnalité, le pharisien use et se réfère à Dieu, et tout dans sa bouche est Dieu. Mais on s'aperçoit qu'à l'usage et à l'observation de sa propre vie, eh bien, il en donne rarement les preuves crédibles ou les fruits positifs. C'est ce que Jésus a remarqué et c'est ce que Jésus nous dit dans ce texte. Et Jésus, comme Jean-Baptiste, ont tellement ressenti cette indignation de commandement chez ces gens pour les autres, alors qu'eux-mêmes, eh bien, se donnaient des passes droits, et que quelque part c'était tout à fait l'inverse. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. En d'autres termes, ils étaient complètement à l'opposé de ce qu'ils demandaient, l'obligation qu'ils posaient sur les autres, et ils avaient tout à fait l'attitude contraire. Jésus leur dira hypocrite, c'est-à-dire vous êtes des comédiens, vous êtes des acteurs d'un mauvais rôle. Vous vous trompez vous-même, vous trompez d'abord les hommes, et qui vous font confiance, parce qu'ils croient que ce que vous dites, c'est la vérité, mais quand vous retournez le personnage, vous vous apercevez que c'est précisément l'inverse. Puisque vous volez les maisons des veuves, puisque vous vous usez de rapines pour vous enrichir, puisque vous maudissez, puisque vous écrasez le petit, vous commettez des injustices, vous passez sur la tête des hommes, pour pouvoir marcher et aller de l'avant et atteindre votre but, Jésus ira beaucoup plus loin. Jean-Baptiste dira la même chose. Ce que je dois le dire. Race de vipères. Ouah ! Alors là, c'est quelque chose. Jésus a eu des mots. Mais c'était des mots justes. Et on comprend que Jésus a été crucifié, parce que quand vous faites traiter de race de vipères, je pense que ça vous met pas en joie. Et pourtant, ce n'était que la vérité. Et ils avaient besoin de l'entendre. Vraiment besoin. Ah, les pharisiens de la première heure, revenant de l'exil de Babylone, étaient revenus humiliés. Ils étaient revenus et ils avaient saisi en Dieu, finalement, eh bien, quelque chose dont ils avaient été privés pendant 70 ans. Et ils vivaient leur foi à ce moment-là. Mais là, quand le temps de Jésus, 200-300 ans étaient passés, je peux vous dire qu'ils étaient devenus les maîtres du pays. Les maîtres des âmes. Les directeurs de conscience. Eh oui, on en était loin. Alors faisons attention parce que l'Église, même notre Église peut tomber dans le même travers. Parce qu'on n'est que des hommes. Dieu nous a fait la grâce, c'est vrai. Mais restons dans cette grâce et restons humbles et modestes et humiliés. Enfin, dans l'humilité en tous les cas. Si nous continuons, c'est pas un réquisitoire, c'est simplement une observation. Parce que cette observation, eh bien, elle se voit aussi dans notre monde, d'une manière ou d'une autre. L'homme restera toujours l'homme. Nous apercevons que les pharisiens étaient particulièrement attachés aux formes et aux apparences, c'est-à-dire à l'extérieur. C'est pourquoi ils nettoyaient la coupe. Ils nettoyaient, là, il nous est dit, mais le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain, ils devaient être très propres sur eux-mêmes, ils se lavaient les mains. Il y avait toutes sortes d'ordonnances comme ça. Mais c'était pour montrer que il était bien. Ça, c'est l'extérieur, naturellement. Et nous voyons que il cherchait à vivre pour paraître et beaucoup plus que d'être. Et qu'est-ce que nous dit l'Évangile? Ce n'est pas de paraître. Il nous demande d'être ce que nous devons être, tout simplement. Sans faux fuyant, sans maquillage, sans masque, sans déguisement. parce que la vraie nature de l'homme, elle se trouve à l'intérieur. Ah, naturellement, plus on est peut-être sale à l'intérieur, plus on se maquille, plus on se lave, plus on se donne l'apparence pour pas perdre le crédit ou la confiance des gens. Ben, c'était leur cas. Mais à l'intérieur, Jésus dira, mais il y a de la rapine dans votre cœur. Dans votre cœur. Vous êtes semblable au sépulcre que vous blanchissez. Votre cœur, il est plein d'ossements. Jésus ne s'est pas privé. Hein. Donc, ce qui comptait, c'est que fallait qu'ils paraissent. Et Jésus le dira, mais même dans la prière. Ils aiment, oui, eux, ils aiment à prier dans les rues, au coin des rues, debout, pour qu'on leur dise, mais qu'est-ce que tu pries bien? Donc, tu es forcément un bon juif. Comme on pourrait dire aujourd'hui, mais tu es un bon croyant. Et il cherchait aussi à dire plus que ce qu'il vivait de ce qu'il disait. Donc les paroles, c'est pas révélateur. On peut dire des choses que l'on ne croit pas. On peut dire des choses aux autres que nous ne vivons pas. Et Jésus va mettre tout ça en brèche. Oh, il a été quand même pas mal, hein, Jésus. Hein. Je peux vous dire qu'il a donné quand même un drôle de coup dans la fourmilière. Et on comprend que ça n'aura pas plu. Hein. On n'a pas à faire la guerre aux hommes. Je le dis encore une fois. Mais derrière, il y a des systèmes qui sont véritablement pernicieux. À d'écouter le monde, à d'écouter les hommes qui ont tant besoin de Dieu pour être secourus, consolés et sauvés, à d'écouter les hommes de croire encore en Dieu. Il y a un chanteur, il y a une vingtaine ou trentaine d'années, je vous l'ai déjà dit, qui s'appelait Daniel Guichard, pour ceux qui connaissent. Il disait, je n'en veux pas à Dieu, mais j'en veux aux hommes qui m'en ont parlé. Ça veut tout dire, hein? J'en veux aux hommes qui m'en ont parlé. Parce que de la manière dont les choses sont dites, ben, je peux vous dire que c'est pour ça que tout disciple aujourd'hui, qu'il fasse attention à ce qu'il dit, au témoignage qu'il porte. Parce qu'il en va du royaume de Dieu, de la crédibilité du royaume de Dieu, dont nous sommes les ambassadeurs. Faut pas l'oublier. Un ambassadeur, il débine pas son pays, hein. Certainement pas, aux yeux du monde. Parce que ces pharisiens étaient attachés beaucoup plus à la tradition, à une croyance traditionnelle, et ils vivaient dans une société qu'ils décriaient, qu'ils rejetaient et qui condamnaient. Comment peut-on édifier lorsqu'on a un fond comme ça? C'est pas possible. Comment peut-on être un témoin de Jésus-Christ? Bien sûr que le monde, il est pas beau. Bien sûr que la société, elle nous scandalise, moi. Il y a certains faits de société qui, ça passe pas. Mais quand même, Jésus nous a dit, je ne te parle pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal, pour qu'il puisse être la lumière et le sel de la terre. Hein. Parce qu'autrement, ben, on se renferme dans un monastère, et puis ben, on vit en dehors. Hein. Mais le problème sera toujours le même dans notre cœur. Hein. Donc Jésus savait très bien qu'il envoyait ses disciples comme des agneaux au milieu des loups. Mais les pharisiens avaient une conception de détester. D'avoir en horreur, d'avoir en exécration, eh bien, le monde dans lequel il est. Regardez. Ce bas peuple. Regardez ce petit peuple. Ils le diront, hein, la crucifixion de Jésus. Regardez, ce sont des maudits. Vous vous rendez compte? Ils pensaient que, mis à part eux, ce sont les mots, hein, de la Bible, hein, si vous en souvenez. Ils diront, mais ces maudits ne comprennent rien à la loi. Ah oui, mais la loi, vous savez ce que c'est? C'est l'amour. La loi de Dieu, c'est l'amour. C'est pas la malédiction sur des gens qui ne sont pas comme nous. Mais peut-être qu'ils peuvent devenir comme nous si on leur tend la main et qu'on leur montre le chemin et que nous sommes nous-mêmes la lumière et le sel. C'est le problème. Alors, l'intégrisme des pharisiens se trouvait en réaction contre tout changement, toute évolution et toute modernité. Parce que Jésus a été vraiment moderne dans son temps. Vous vous rendez compte de la manière dont il a parlé de la femme juive? Comment il a fait évoluer les choses? Comment il a pris avec lui des femmes pour le suivre? Non pas pour prêcher, mais pour l'accompagner. Comment il a remis la femme à l'honneur? Si vous lisez l'évangile de Marc, il y a des ouvrages de la position de Jésus pour, eh bien, faire de la femme l'égale de l'homme, et non pas une servante, non pas comme quelqu'un qui est à traiter comme une domestique, mais comme l'égale de l'homme. Alors après, ça s'est développé dans les sociétés chrétiennes. Oh, il n'y a pas si longtemps. Peut-être que maintenant, on va peut-être un peu trop loin. Mais peu importe. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus est un révolutionnaire. Il a été moderne. Et ça ne passait pas, hein. Ah, il n'arrivait pas à l'avaler, hein, les pharisiens. Pas du tout, hein. Parce qu'ils perdaient leur domination, probablement. Alors voilà que le pharisien se crispe sur des formes apparentes et qu'il croyait, voilà, que les choses ne pouvaient pas changer, donc intangibles. Il mélange le temporel avec le spirituel. Pour lui, il ne fait pas trop la différence entre les deux. Régner, c'est maintenant. Régner, c'est à Jérusalem, c'est dans le temple, à celui qui aura la meilleure place, au Sanhédrin, ou peut-être dans les instances dirigeantes de la nation. Ça, c'est, pour lui, eh bien, c'est véritablement, eh bien, là, la véritable position. Alors que la dimension qui doit être celle des chrétiens, c'est que peut-être l'humiliation ici-bas, mais la gloire de l'autre côté, vous comprenez? Certainement. Et ils appelaient spirituel ce qui n'était que charnel, que ce qui n'était que religieux, donnant la prééminence à l'âme sur l'esprit, tout simplement, qui est appelée la chair. Ils n'entendaient rien à cette question. Et ils prétendaient imposer leur style de foi comme modèle de salut à tous, à l'exclusion de tout autre. On l'a entendu, ça, hein. Hors de l'Église, point de salut. Bon, ça, c'était les siècles passés, hein. Aujourd'hui, on pourrait peut-être le décliner avec d'autres religions, hein. Certains sont tout à fait convaincus que nous sommes des infidèles, hein. Avec le châtiment que mérite l'infidèle. Mais quelquefois, n'abusons pas aussi, quelquefois, de la grâce qui nous a été donnée. Vous savez, j'espère que vous n'allez pas me couper la tête, hein. Mais hors de notre contexte, et hors de notre église, notre bonne église de Saint-Nazaire, ben moi je suis sûr qu'il y a des gens qui sont sauvés à côté de nous, hein. J'entends quelqu'un qui me dit heureusement. Mais oui, il y a des gens qui aiment le Seigneur, il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, il y a des gens qui passent par la repentance, la nouvelle naissance, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Je vous choque pas? Ne me crucifiez pas, surtout. Parce que comme ça, c'est Jésus qui a fini comme ça, hein. Non, non, mais c'est vrai, mais écoutez, le Seigneur ne nous a pas attendus pour... Alors voilà, c'était le problème, justement, des pharisiens, parce que sans eux, c'était terminé, hein. Il n'y avait pas d'autre chose. Ils étaient exclusifs et normatifs au risque de faire peur aux gens qu'ils allaient se perdre et qu'ils étaient perdus sans eux. Le fanatisme est une caricature. D'ailleurs, même sur le plan des choses humaines, quand on voit des fanas, on se dit, mais... ouais, c'est assez bizarre tout ça, hein. C'est une caricature de la foi, c'est une passion aveugle et inintelligente, bornée, qui s'appuie sur le fait religieux exagéré, je dis bien, exagéré, excessif, extrémiste. C'est ça la définition que nous pourrions penser. Et les pharisiens du temps de Jésus étaient de cette trempe. C'est une affirmation prééminente de soi-même. Voilà. C'est pas Dieu qui t'en promet, mais c'est soi-même qui est véhémente, sans nuance et sans modération, un besoin violent d'identité. Si l'on peut le dire, une erreur confusionnelle. Qui ne peut amener l'humanité, écoutez bien, à l'amour, à la bonté et à la tolérance de ce qui est différent de nous. Or, l'Évangile, c'est exactement le contraire. L'Évangile amène les gens à l'amour. Il les amène à considérer que mon prochain ou mon lointain, quel qu'il soit, a été sauvé par Jésus-Christ, je suis pas le seul, que Christ est mort pour lui. Alors peut-être qu'il porte un turban, qu'il marche avec, je ne sais pas moi, une peau d'ours ou peu importe, hein, quelle que soit sa langue, quelle que soit son éducation, quelle que soit sa civilisation, quel que soit l'hémisphère dans lequel il se trouve, Jésus-Christ est mort pour lui. Et l'Évangile est universel. Alors à ce moment-là, eh bien, il doit y avoir une démarche qui doit être préparée dans mon cœur, qui n'est pas la haine et le mépris de l'autre qui ne me ressemble pas et qui ne pense pas comme moi, et d'autant plus qu'il ne croit pas comme moi, eh bien, La réponse, nous l'avons, et ça, les pharisiens s'étaient exclus, scandalisés que le salut, que Jésus, le Messie, leur Messie, allait apporter, que ce Messie allait devenir universel. Le message de l'Évangile allait devenir universel. Ah ouais, il mange avec les publicains. Puis qu'est-ce que l'on fait là chez un certain centenier? Pierre dit, mais oh, certainement pas. Dieu va lui répondre par une vision, il va lui dire, écoute, ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur, parce que maintenant c'est comme ça. Changez nos yeux, changez notre cœur. Le légalisme forcené empêche la croissance morale et spirituelle des êtres. Ouais. Vous avez lu avec moi, c'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament, sous la plume de l'apôtre Paul. Il nous est dit que la loi est un pédagogue pour que, d'enfants que nous sommes, nous devenions des adultes, et que nous puissions discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et que nous devenions matures, que nous devenions des hommes faits. Mais la loi ne peut pas nous amener à ça, parce que nous tombons toujours dans les écueils de l'exigence où personne, aucun homme ne pourra mettre parfaitement la loi de Dieu en pratique. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est quand un homme entend l'Évangile et qu'à ce moment-là, dans son cœur convaincu de péché, de justice et de jugement, il se tourne vers le Seigneur en disant « Seigneur, le mot « sauve-moi », c'est qu'il a compris qu'il était perdu. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et ça, je peux vous dire que les pharisiens étaient à 10 000 de ça. Je termine. Donc, ils sont venus pour observer, ils sont venus en nombre. Ils ont vu les disciples qui ne se lavaient pas les mains. Alors les pharisiens, parce qu'il nous est dit qu'eux, eh bien, ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains, et conformément à la tradition des anciens. C'est bien, moi je ne suis pour eux. Je suis pas contre. Naturellement, je ne suis pas contre. Mais ils faisaient cela, l'élément essentiel ou tellement important de leur de la satisfaction de Dieu ou de l'agrément de Dieu. Et puis il n'y a pas que ça, hein. Parce que Jésus va leur envoyer à un moment donné, il va leur dire, écoutez, arrêtez avec vos histoires. Hein. Il dira ces paroles, par exemple, malheur à vous, pharisiens et scribes, hypocrites, parce que vous payez la dîme. Ah oui, ils n'étaient pas avares de ce côté-là. Hein. Mais ils ne le payaient pas à Dieu, ils le payaient à la synagogue, donc ça revenait toujours dans le même circuit. Donc voilà, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, petite plante indifférente qui n'allait pas certainement bouleverser le monde. Hein. Alors vous êtes très scrupuleux, vous êtes méticuleux pour des choses, des observances qui en soi sont pas mauvaises. Mais attendez, le problème est là où est la difficulté, c'est que vous laissez ce qui est important de la loi de Dieu, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus d'ajouter, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez que Jésus n'est pas contre. Il voulait payer ceci et cela, etc. Il voulait donner de l'argent au temple, il voulait faire ceci. Mais Jésus n'est pas contre. Mais l'essentiel et le principal n'étaient pas là. La justice, la miséricorde et puis la fidélité. C'est ça le problème. Et c'est là où se situe véritablement, eh bien, notre histoire. Alors il se lavait les mains. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, mais pourquoi tes disciples suivent-ils la tradition, ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais ils prennent leurs mains avec les mains sales. Jésus va leur répondre, comme il répond à chaque fois, hypocrite. Parce que vous, avec votre histoire de sabbat, vous savez, vous me maudissez, vous êtes prêts à me jeter des pierres et à me lapider parce que j'ai guéri une femme un jour de sabbat, parce que j'ai fait ceci un jour de sabbat, dites donc. Contre votre animal, alors que normalement le jour du sabbat, il est interdit de faire quoi que ce soit, de travailler ou de soulever quelque chose, je peux vous dire que vous prenez votre robe à vos genoux et vous mettez à courir parce qu'on vient de vous annoncer que votre boss est tombé dans une fosse. Ben là, vous allez tirer dessus, vous allez travailler. Hein. Et une femme, une malheureuse qui est malade depuis, souffrante, paralysée depuis 18 ans, que Satan tenait depuis X temps, alors il faut la laisser comme ça dans son état. Jésus a bien le mot, hein. Comédien, parce qu'Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans la prière, dans l'adoration, dans tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur, ne soyons pas avec des mains, des pieds ou une bouche qui n'est qu'apparence, mais il faut y mettre son cœur. Et là, à ce moment-là, c'est là où les choses ont de la valeur. Et le peuple d'Israël était devenu un peuple d'automate. Un peuple qui fonctionnait parce que bon, les choses étaient comme ça, il fallait satisfaire de cette manière. Combien il y a d'hommes aujourd'hui dans le monde, toutes religions confondues qui font les choses parce qu'on leur a dit de faire cela, mais ils ne comprennent même pas le sens pourquoi ils le font. Alors eux, ce ne sont pas les coupables. Les coupables, ce sont ceux qui usent de cette manipulation. C'est terrible. C'est en vain, dira Dieu, qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont que des commandements d'hommes. Combien d'hommes, hier et aujourd'hui, hier peut-être davantage, parce que les gens s'affranchissent, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus croire en Dieu, parce qu'ils assimilent Dieu à l'église dans laquelle ils ont été élevés. Mais combien d'hommes ont été tourmentés, ont été peut-être même dans des tourments infernaux avec les commandements, prétendument les commandements de l'église. Quel déchirement. Des gens qui craignent, des gens qui ont peur, des gens qui se cachent. Des gens qui augmentent leur souffrance, parce que s'ajoute finalement, un aspect de la religion qui n'arrange pas les choses. Jésus est venu nous affranchir de tout cela. Il est venu nous donner la véritable liberté. Et il dira en conclusion, vous abandonnez le commandement de Dieu, parce que le commandement de Dieu, il est saint, il est vivant, il régénère, il ressuscite même des vies inertes, des vies qui sont éteintes. Et vous avez abandonné l'essentiel. C'est Jérémie qui dira de la part de Dieu, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller courir, pour aller puiser dans des citernes crevassées. » Dixit Jérémie. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » La tradition, quelle importance, si ce n'est pas une tradition qui est animée par l'Esprit de Dieu, si cette tradition n'est pas spirituelle. Moi, ça me fait mal au cœur de voir quelquefois des choses dans notre pays, des gens qui, au demeurant, sont sincères et qui font les choses, tout simplement parce que c'est comme ça, et qu'à côté de cela, peut-être ils ont un refus de lire la Bible, un refus de lire l'Évangile, de lire et de prendre acte de ce qui pourrait les libérer et leur donner de venir au Seigneur et de vivre une vie nouvelle. Voilà. Mais comme ils ont peur du « qu'en dira-t-on ? » Ils ont peur de l'exclusion, ils ont peur du doigt qui est pointé contre eux en disant « vous savez, c'est un renégat ». Il a abandonné la tradition de ses pères. Il a abandonné la religion de ses pères. Mais on n'est pas sauvé par une religion, on est sauvé par Jésus-Christ. Alors, que Dieu nous bénisse. Et soyons les uns et les autres un peuple qui honore Dieu de nos lèvres, de notre vie entière, de notre cœur, de notre conscience, de notre pensée. Et que nous puissions véritablement, être près de lui. Parce que nous apercevons que dans tout cela, il n'y a pas autre chose, cette dimension, qui est celle de la vie. La lettre tue, nous dit Paul. Mais je voudrais vous dire que la lettre, si elle vivifie, quand elle est interprétée, quand elle est vécue, dans l'esprit. C'est l'esprit qui nous fait vivre. C'est pas la tradition, c'est pas la religion, ce sont pas tout ça. Mais quand il y a vraiment l'action du Saint-Esprit, alors la lettre, parce que nous avons été sauvés par la lettre quand même. Le message merveilleux de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la lettre de Dieu, non ? Et nous l'avons saisie par la foi, et nous avons découvert le pardon et la grâce, et nous avons véritablement maintenant la possibilité de marcher à la lumière du regard de Dieu, dans une vie de plénitude. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que des hommes nous ont précédés. Et c'est vrai, Seigneur, qu'ils ont eu le courage, voire même l'audace, de dire tout haut. En effet, Seigneur, ce que ils avaient à dire pour amener, Seigneur, des hommes et des femmes, leurs semblables, à une véritable liberté. Oui, Seigneur, nous croyons, Père, que nous pouvons avoir une religion. Nous voulons avoir une appartenant, Seigneur, dans une croyance et nous y inscrire. Mais Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas en avoir l'apparence, comme les pharisiens, de bien prier, même de prophétiser, même de produire des miracles, même de manifester notre foi. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, ce n'est pas cela ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous soyons de nouvelles créatures. Ce qui est important, c'est que les choses anciennes sont passées, mais que toutes choses sont devenues nouvelles pour nous, parce que Christ est venu pour nous apporter le salut. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Et je te demande de nous bénir ce soir. Tu as bien voulu nous éclairer. Mais tu béniras aussi tous ceux et celles, Seigneur, qui auront peut-être l'occasion et, en effet, la possibilité d'entendre le message de l'Évangile. Qu'il se décline sous une forme ou une autre, c'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Et le fond, c'est de connaître Jésus. C'est de venir à Jésus. C'est de nous donner à Jésus. C'est de lui faire confiance et lui remettre notre vie. Merci, mon Sauveur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.